签。
我们现在签呢。
我说我。
如果现在。
我们就。
喂啊。
我说对。
喂，大黑。
Non, non, tu peux le mettre là. On va commencer, mais prends ton café tranquille parce que je commence toujours en musique et puis là ça va. Alors on commence en musique pour cette interview de Laure Terrier, HAU, 7h du matin, Jardin d'Étienne. Le titre s'appelle Samedi 4 septembre 2004, 16h23, Forêt de Feuillus, par Cyril Épina, Mathias Faure et Jérôme Berthelon. Avec nous en fond. Tu as peut-être des choses à nous dire sur notamment Mathias, je suppose. Donc je vais te demander de nous parler un petit peu d'eux et de tout ça.
Mais je trouve que ça va bien d'écouter ça au Jardin d'Étienne ce matin. Je pense qu'il serait content.
Pour quelle raison ?
D'abord parce qu'ils n'ont rien contre le bio, au contraire. Ensuite, parce qu'il y a des sons qui vont bien. Ici, là, tout de suite, c'est traversé de sons de gens qui s'affairent, qui transportent des objets, des outils. Ça va bien avec ce travail-là. Avec ce qu'ils font. Et puis voilà, après ça me touche vachement parce qu'il est 7h du mat, que j'ai pas beaucoup dormi, que Mathias c'est le parrain de ma fille qui est encore en train de dormir à la maison, que Mathias aussi il est malade depuis pas longtemps, et je le sais depuis pas longtemps. Une petite connerie, ce qu'on appelle la maladie de Lyme, qui est super emmerdante. Un petit tic de rien qui te fout une zone pas possible. et qui fout par terre tous nos traités de boulot. Ça fait 2 ans qu'on bosse sur un spectacle tous les deux, qu'on a écrit tous les deux. Il y a 8 personnes qui le jouent, et dont Mathias. Et en fait, on va pas le jouer. Et j'ai pris la décision hier de pas remplacer Mathias, parce qu'il est pas remplaçable, ce mec. Voilà. Donc on va pas le jouer, on annule tout. Et puis là, ce matin, au réveil, tu me le mets dans les oreilles. Alors, je me dis que la vie continue, du coup, c'est cool. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, c'est que du spectacle. Et l'important, c'est que... Ouais, c'est qu'ils se rétablissent, et puis que plus tard on fasse des trucs justes, dans des endroits justes. Et que chez Étienne, dans un endroit où on fait gaffe à ce qu'on mange et comment on vit et comment on respire, c'est peut-être plus intéressant pour nous que les festivals de rue dans lesquels on devait aller jouer, qui sont un tout petit peu moins branchés sur des choses essentielles. Voilà, je me dis ça ce matin à 7h du mat'.
Si vous jouez pas spectacle, ça m'intrigue quand même. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui était prévu dans ce spectacle? Tu me parles de 8 personnes. Donc je suppose qu'il y a de la danse et de la musique, mais peut-être pas que. Essaie de nous décrire un petit peu ce qui se serait passé.
Ce qui va se passer l'année prochaine. Mais ça s'appelle Nous sommes. C'est 8 personnes. Qui se montrent, qui se racontent, qui cherchent des mots pour dire qui ils sont, ou qui cherchent des gestes, ou qui cherchent des sons pour dire ou pas dire, ou se cacher derrière, ou voilà. Effectivement, dedans, il y a Mathias, qui travaille sonorement et qui danse. Il y a aussi une fille que tu connais sans doute, qui s'appelle Anne-Laure Pigache, qui parle vachement bien, et puis qui danse aussi, et un Camille Perrin, qu'on connaît peut-être en tant que contrebassiste, qui là danse et parle et chante et bouge, et voilà. Et puis des danseurs d'ici, de Bordeaux. Céline Carac et Miles Siegfried, je ne sais jamais dire son nom. Et puis Laetitia Andrieux, qui est une chouette comédienne d'ici aussi, une belle personne. Un Marseillais, Guillaume Grisel. Et Nicolas Lanier aussi. Et voilà, c'est une belle bande qui est super sensible et qui amène des belles choses dans l'espace public, je trouve. Hyper atypique. Voilà.
Alors j'avais prévu de te poser comme première question que tu nous décrives une journée type que tu as passée à Besançon avec voilà, les gens, les lieux que tu aimes ou que tu aimais fréquenter. Je ne sais pas si tu y retournes, mais voilà, que tu nous dises un petit peu une belle journée à Besançon par Laure Terrier et que tu nous décrives un petit peu la ville.
Il est malin, lui. Je me souviens plus. C'est quoi une belle journée à Besançon? Ça doit ressembler à une belle journée à Bordeaux, mais en moins. Parce que quand même, il y a le marché aussi. Alors, à Besançon, tout commence plus tôt, sauf aujourd'hui. Mais à Besançon, le marché, il bat son plein à 9h du mat. Il est fini à 11h. Mais j'aimais bien ça. J'aimais bien le marché il y a très très longtemps sur la place... du marché, tout simplement. J'aimais bien cet endroit. Et puis du coup, voilà, après il traînait un peu. Et peut-être après aller boire l'apéro place Marilla. Et puis ensuite aller à la librairie Les Sandales d'Empédocle. après, on n'est pas à l'abri que ce soit pendant le festival de Romanoni qui est complètement cinglé. Alors peut-être on peut aller voir un super concert avec un programmateur qui aura prévenu la salle qu'elle va détester ce qu'elle va entendre, que c'est une musique extrêmement difficile et qu'il prendra pas mal s'ils s'en vont. Évidemment, personne ne part jamais, tout le monde trouve ça super. Et puis bah, du coup, puisqu'on est à Granvelle, bah, rester à Granvelle et puis boire un coup à Granvelle, partager du temps avec les gens. Et aller au passager du zinc en sortant. J'aurais parlé que de bar. Heureusement, il y avait une librairie et le marché. Mais Besançon, c'est une ville de bar. Il fait froid, alors les gens se retrouvent dans les bars. C'est pas une ville où on... de terrasse, c'est pas une ville de rue, c'est une ville de bar. C'est comme ça qu'on se trouve et qu'on se retrouve. Voilà.
Et ici donc, qu'est-ce que tu as trouvé ici? Je sais que tu apprécies beaucoup.
Saint-Michel, les Capus. Et puis Saint-Michel, et puis les Capus. Et puis après, il y a des choses bien autour. Mais bon Dieu, quoi. Quand mon amoureux m'a amené aux Capus, là, tu dis alors d'accord, en fait. Peut-être on pourrait installer une chambre au milieu des Capus, faire une petite cabane, et puis on n'aurait pas besoin de grand-chose de plus. Ouais, c'est comme sa vie. C'est comme sa vie dehors aussi, autour, là. C'est pas forcément idyllique, hein. Il y a aussi des gens qui dorment autour. Là, je déconne avec ma petite chambre, mais il y en a qui n'ont pas le choix. Et voilà, c'est hyper touchant, mais je trouve que dans ce quartier, on vit pas tous ensemble, c'est pas vrai, mais on vit côte à côte d'une assez belle manière quand même. Ceux qui vivent vraiment ensemble ici, c'est les gamins à l'école. En bossant à l'école des menus, je me suis aperçue de ça, qu'en fait c'est vraiment dans les écoles où ça, c'est vrai que ça tisse, c'est vrai que ça travaille ensemble, c'est vrai qu'il y a toutes les langues qui se parlent, qui essayent de se parler, que les instits font un taf énorme pour l'unité du quartier. Mais oui, vivre ici, c'est vachement riche, super enrichissant. Même si quand tu t'appelles l'Orterrier, que tu es dans ce chorégraphe, ben tu fais partie de ceux qui gentrifient le quartier, et puis tu le sais. Et puis, ben voilà, tu fais avec ça. Tu gagnes pas beaucoup, mais avec ton intermittence, ben, tu fais partie de ceux qui font que ce quartier il sera dans 10 ans comme pas mal d'autres partout en France. Mais pour le moment, il y a un truc hyper puissant encore. Et puis, il y a quand même aussi, je crois vachement à la puissance des lieux. La place Saint-Michel, elle a un truc... plus fort que le politique, plus fort que l'urbaniste. Elle impose un vivre ensemble qui me fascine assez. Je ne sais pas si c'est parce qu'on danse sur les morts, place Saint-Michel. Je me demande souvent si c'est parce que dessous, il y a tous ces morts qui sont plus forts que tout ça. Mais elle a été refaite, elle est moins... Elle est plus... Elle est bon, je m'en fous, en fait, comme elle est. Pour autant, les usages sont plus forts que la pensée. Et ça, c'est quand même super chouette. Je me souviens au début des travaux, avant les travaux, il y a eu un tas de sable au milieu qui servait à alimenter des travaux, ben, peut-être bien dans ma rue, peut-être bien rue Camille Sauvageau. Évidemment, il était entouré de barrières. Au bout de 3 heures, c'était un bac à sable pour les gamins. Voilà. Je trouve que c'est Saint-Mich. C'est génial.
Après, tu viens de dire quelque chose qui m'interroge. Tu as dit que c'était un quartier où on se côtoyait. On ne vivait pas vraiment ensemble qu'on se côtoyait. Et pourtant, tu viens de faire un travail à l'école des menus. Et chez les gamins, tu n'as pas ressenti ça. Est-ce que tu as une explication sur... cette déliquescence qui peut se passer entre le monde de l'enfance où on vit vraiment ensemble et puis quand on devient adulte finalement on se côtoie et on oublie ça. Est-ce que ça t'a fait réfléchir, quoi, ce que tu as vécu à cet endroit-là?
Moi, ce que je ressens à l'école des menus, c'est mon ignorance en langue étrangère. Je ne comprends pas pourquoi je ne parle pas le bulgare, le roumain, l'algérien, l'arabe, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas appris ces langues-là. Je ne comprends pas pourquoi on a hésité entre espagnol, allemand et italien. Exclusivement, voilà. À l'école des menus, y a plein de primo-arrivants. Et puis, bon, bah voilà, il y a des mômes qui communiquent, qui cherchent leurs mots, mais qui aussi communiquent physiquement, qui se touchent, qui... Voilà. Et en vivant dans ce quartier, en faisant des choses avec... notamment avec Chahut, bah, de toute façon, avec l'école des menus, c'est avec Chahut aussi. Là, ces trois jours, j'ai fait des promenades à l'aveugle. T'embarques quelqu'un, tu l'accompagnes avec bienveillance dans l'espace public. T'as prévu un parcours qui va lui faire entendre des choses. Bonjour, monsieur. Et des choses toutes simples du quartier. Et je suis partie avec des gamines des menus, justement. Certaines parlaient français, d'autres pas. Et voilà, et il y avait des réactions. C'est super beau d'entendre une gamine s'exclamer en bulgare. Ça doit être super de comprendre ce qu'elle dit. Alors je crois que je vais apprendre le bulgare. Ça me semble une évidence à Saint-Michel. Je pense qu'il y a 20 ans, on apprenait le portugais. L'évidence, ça devait être le portugais ici. Bon, maintenant, j'ai envie d'apprendre le bulgare.
Là, on parle de ville et je crois que tu cherches l'intime quand tu danses dans la ville, puisque ça t'arrive souvent. Et tu as écrit que l'intime se cache et se dévoile dans la ville. De quelle manière tu arrives à trouver l'intimité d'une ville dans ta pratique chorégraphique?
Alors... C'est mon environnement naturel. J'ai pas grandi à la campagne. Un peu. Mais en fait, à la campagne, moi, je me sens observatrice, fascinée. Ben voilà, je trouve que la nature, c'est hyper créatif. Donc j'ai qu'à regarder. Moi, ça n'appelle que le relâchement, l'observation, et voilà. En ville, c'est moins beau, ça pue, c'est moche, c'est plein d'incohérences. Mais du coup, c'est plein de signes, ça parle, ça n'arrête pas de parler, les murs parlent, la couleur, les tags... les traces, le canapé qui est posé là-bas. Ça raconte tout ça, c'est plein d'histoires, quoi. Tout ça, ça me raconte plein de trucs. Ça me fait fantasmer, puis du coup, ça me donne envie de raconter des histoires, puis ça me donne envie qu'on m'en raconte. C'est plein de rythmes. C'est rythmé par plein de trucs, par de la peinture, du son. Bon, bref, voilà, ça me réveille, ça me met en présence. Du coup, la façon que j'ai de faire, c'est de me mettre... en fait, c'est d'écouter. Voilà. Écouter les yeux fermés, écouter les yeux ouverts, avec mes tympans, avec ma peau. Ça me met dans une relation organique à l'environnement. Et du coup, la ville me semble être un espace absolument, totalement organique, autant que autant que la plage. Voilà.
Est-ce que tu as des désirs enfouis dans ta pratique chorégraphique que tu recherches ?
Oh putain, je sais pas. Je sais pas. Sans doute. De la survie, en tout cas. C'est ma survie au milieu hostile. C'est mon engagement politique aussi. C'est ce que j'ai à... C'est ce que je me sens de porter politiquement. C'est ce qui est à ma hauteur politiquement. Comment on se regarde, comment on se touche, comment on se sent les uns les autres. Voilà.
Et donc dans ta pratique chorégraphique, tu parles d'écriture instantanée, de la même manière que les improvisateurs. Pour qualifier leur musique, on parle aussi de composition instantanée. Comment tu écris instantanément ?
Moi, j'écris beaucoup en amont pour écrire instantanément. Bon, ça arrive hein, que je parte en impro de moins en moins. En vrai, vrai impro, je crois que je peux plus.
Pourquoi ?
Ben parce que à force, au début quand t'es tout jeune, t'es un chien fou. Tu cours partout, tu vas partout, tu t'affoles, tu veux être tout. Tu veux être tout puissant, puis tu veux être toutes les femmes du monde, toutes les danseuses du monde. Voilà. Puis à un moment, tu te rends compte qu'il y a des endroits où quand même t'es plus pertinent, parce que ça te touche plus, parce que ça a plus de sens. Puis du coup, ça se réduit, l'espace se précise, l'espace de recherche se précise. Et du coup, par exemple, avec qui je travaille aujourd'hui, il y a des gens que je trouve vraiment, des artistes que je trouve fabuleux, mais j'ai pas envie de travailler avec eux. Je dis pas qu'eux, ils ont envie de travailler avec moi. Hein. Mais moi, en tout cas, je sais que je peux travailler, chercher qu'avec des artistes pour qui l'espace est une question importante, notamment les musiciens. Si les musiciens sont foutent de l'espace... S'ils ne l'écoutent pas, ça arrive beaucoup. S'ils ne l'écoutent pas, l'espace, ben moi, je ne peux rien faire que m'agiter, faire la danseuse qui lève la papate à côté, ce qui n'a pas grand intérêt. Ou faire l'inverse, faire du buteau qui traverse au ralenti, parce que de toute façon, ils n'écoutent pas. Alors, il n'y a plus qu'à être une fille qui marche au ralenti. Bon. Alors que dès qu'on est d'accord sur le fait qu'on écoute l'espace... Mais là, on peut commencer à inventer, parce qu'on sait de quoi on parle. Et du coup, on se comprend. Il y a un langage commun qui fait que, tiens, bon, après, ça suffit pas. Après, il faut qu'on affine, qu'on discute, qu'on se rende compte que, ah oui, toi, tu le prends comme ça, mais moi, je le prends comme ça, moi, ça veut dire ça, etc., etc. Et en fait, non, du coup, on n'est plus en impro, on est dans... On est dans traduire des questionnements par un acte, mais et une sensibilité, et un rapport au monde. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup moi l'expression composition instantanée, parce que tu composes avec des matériaux que tu connais, que tu as choisi, qui t'intéressent, que tu respectes. Voilà.
On va faire une petite pause musicale avec quelqu'un, je pense que tu connais aussi, Nicolas Desmachelier et Olivier Tout le Monde.
Thank you.
ici avec nous, derrière un fond. Je crois que c'est la première rencontre avec la musique que tu as faite, ou je me trompe, premier duo, en tout cas, avec un musicien.
En tout cas, le premier dont je me souviens. Bah ouais, les Ishtar. Avant, c'était les Ishtar. Ça aussi, c'est bien cohérent, hein, ici, chez Étienne. Olivier, tout le monde, il possède la plus belle cave de vin nature que j'ai eu la chance de goûter. ah ouais, moi, il m'a éduqué au goût du vin nature, de tous ces vins. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? D'où ça vient? Cette texture étrange, ces goûts qu'au départ tu dis mais... Il est dégueulasse ce vin, on peut pas boire un truc pareil. Puis, ah d'accord, il se passe ça, ok. Ça c'est, voilà, Olivier. Donc, c'est aussi un super musicien, c'est vraiment un mec génial. Du coup, avec qui on a pas mal bossé, on s'est rencontré avec une compagnie qui s'appelle Passaros, Émilie Borgo, qui est chorégraphe, qui nous faisait travailler ensemble. Et ensuite, Olivier, du coup, faisait partie de la première création de la compagnie, Jeanne Simone, que je trimballe depuis 11 ans. À l'époque, avec des ressorts tendus, des fils tendus dans l'espace, avec lesquels il jouait à l'archer, et puis un début de table. Amplifié avec plein d'objets dessus. Et puis Nicolas, ouais, duo danse-musique. Nico à la guitare. En face de nous, il y a une photo d'Indien. Je sais pas lequel c'est, je sais pas son nom. Mais des Marcheliers, c'est un sacré Indien. Le Marchelier, c'est un petit bonhomme, haut comme trois pommes, super atypique. Et ouais, avec ces mecs-là, moi, j'ai compris, j'ai appris plein de trucs, j'ai découvert plein de trucs. Je leur dois vachement. C'est deux bonhommes.
Je réponds à ta question, c'est Mapuche, hombre de la tierra.
Et ben voilà, ça ressemble à des Marcheliers, non? Ça sonne un peu pareil. Oui.
Alors, quand tu étais interprète, tu sentais comme un hiatus entre ta situation de danseuse et ta vie de femme citoyenne. Pourquoi?
Quand tu es danseuse contemporaine, interprète, et que à un moment, par exemple, tu prends dans la salle dans laquelle tu travailles, centre chorégraphique dans lequel tu travailles, ou le théâtre dans lequel tu travailles, tout d'un coup tu portes un objet technique. Et là, il y a trois techniciens qui s'arrêtent et qui disent ah, attends. Et tu sais pas si c'est parce que tu es une petite chose fragile et ou si c'est l'objet qui est tellement précieux qu'une danseuse peut pas s'en occuper. Mais en tout cas, tu te rends compte que tout est bien rangé. Toi, les objets, tout est bien hiérarchisé. Et que t'as pas fini de t'ennuyer, quoi. En fait, globalement. En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Après, j'ai appris énormément de choses sur la création en étant interprète. Comment on peut être avec une équipe, comment on peut la passionner ou pas, comment on peut l'embarquer dans une histoire ou pas, de quelle façon, comment on monte un projet, comment on le tient, comment on le défend, enfin tout ça c'était super. Mais j'ai pas eu moi la chance d'être embarquée en tant qu'interprète dans un truc où tu fais partie du processus. J'ai découvert qu'interprète c'était un petit peu comme sportif de haut niveau. Tu es un potentiel physique, mais tu es rarement un potentiel émotionnel, intellectuel. Voilà, ça doit arriver, hein. J'imagine qu'il y a des chorégraphes qui travaillent d'une autre façon. Moi, j'ai pas vécu ça. J'ai testé le coup pas mal de fois quand même, mais... Et donc, je me suis rendu compte que ce qui, moi, m'intéressait, c'était pas vraiment la danse en tant que telle, c'était la création, c'était qu'est-ce qu'on invente, pourquoi on l'invente, qu'est-ce qu'on se raconte tous ensemble, c'est quoi cette aventure-là. Alors, je suis tombée sur les Ishtar. Non. Alors, je suis passée au 102 à Grenoble. J'ai rencontré, pour une création, pour le coup, j'ai rencontré Xavier Carrel. Qui fait c'est compliqué de dire ce qu'il fait, Xavier, qui fait de la musique avec des projecteurs 16 mm qui fait aussi du cinéma expérimental avec des projecteurs 16 mm notamment au sein de la cellule Metemkin, qui m'a dit tiens, tu devrais venir cet été, il y a un festival à Mer dans le Morvan. Tu devrais venir, ça devrait te plaire. Ma vie a juste basculé là-bas. J'ai rencontré les Ishtar, notamment. J'ai aussi retrouvé tous les punks qui n'étaient pas morts et qui n'étaient pas toxicaux et qui n'étaient pas dépressifs, qui étaient juste restés punks. Mais dans, voilà, aussi dans à la ex, quoi, à la ZX. D'ailleurs, il y avait les ex qui mangent bio, qui défendent ça. Ça ne les empêche pas de faire énormément de bruit. Et puis tous les minimalistes à la Démarchelier, là, comme ceux qu'on entend. J'ai retrouvé tout ce petit monde. Il y avait des gamins. Il y avait des gens de tous les pays. Ça créait dans tous les sens. J'ai vu le plus beau feu d'artifice de ma vie. Un duo de Osier avec Repeco. À la guitare, au taquet. J'ai découvert qu'on pouvait être directeur de scène nationale et jouer de la guitare comme un sourd avec un Bob Ricard dans un champ. Je trouvais que c'était réjouissant. Voilà. Je me suis dit, bah voilà, moi je vais pas repartir, je vais rester là. C'est vachement plus funky. Et voilà. Et tant pis pour ma carrière d'interprète.
Et tu as dit aussi que le spectaculaire est une forme de perfection qui met à distance le spectateur. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?
Ça, moi, je pense à juste pour la technique. Ça dépend. Ça dépend. Mais quand même, souvent, les choses très techniques, physiquement en tout cas, ben, tu les regardes en te disant que waouh ! Mais c'est pas toi, du coup. C'est pas toi qui pourrais le faire. T'es face à... Merci. T'es face à un truc qui te dépasse. Peut-être qui pourrait te donner envie d'être un surhomme. Mais en tout cas, c'est pas toi qui peut vivre ça. Et moi, j'aime bien les choses où... Mais des fois, il y a des gens extrêmement techniques qui cavalent devant leur technique, en fait. Et j'en ai en tête aussi, hein. Gens qui transcendent la technique et puis qui arrivent quand même à te toucher toi en tant qu'humain et tu te dis pas que toi t'es gros, que toi t'es lourd, que toi t'es pesant, que toi tu pourras jamais faire ça. Après l'idée c'est pas que tout le monde fasse, c'est juste que en fait je crois un truc un peu d'identification quoi. Des choses qui t'ouvrent des portes dans ta vie à toi. Voilà, c'est ça que je voulais dire ce jour-là.
Bon, le temps passe avec toi, et on s'en rend même pas compte, quoi. Ça fait déjà presque une heure qu'on parle. Je t'avais demandé quelque chose avant qu'on fasse cette interview. Je t'avais demandé si tu pourrais éventuellement danser, improviser quelque chose. Donc je vais te mettre un petit peu de musique. C'est une pièce de David Chiesa qui s'appelle Blue Yonder. Et je te laisse.
Thank you.
Merci Laure.
Des gens, voilà, des mecs, des nanas, des gamins.